Dans notre série sur la radio numérique, j'ai souhaité faire un point sur l'existant du côté des éditeurs, des radios elles-mêmes, celles qui sont déjà présentes au niveau local et qui ont fait le choix de monter en DAB+, et surtout, comment se projettent-elles dans l'avenir ? J'ai souhaité réunir des gérants de radios locales qui émettent en FM, une associative, une commerciale et une de service public, afin que vous ayez une idée d'ensemble sur ce média. Si un problème d'agenda a fait que nous n'avons pas France Bleu Occitanie, nous avons la chance de recevoir par visioconférence François-Xavier Delacoux, co-gérant de RTS, Radio de 7, qui arrive sur l'agglomération toulousaine via le DAB+.
Bonjour.
Et Pierre Rogal, vice-président fraîchement élu de Radio FMR et que je peux me permettre de chambrer car après tout, il n'est que le producteur historique de l'émission culte Vomifroid.
FMR 89.1, corrosif.
Bonjour.
CPU, carré, petit, utile.
La radio et vous, quand vous l'écoutez par plaisir, quand le faites-vous ? Chez vous ? En transport, au bureau ou sous la douche ? Pierre.
Tout le temps. Dès que je peux.
François-Xavier.
Bah c'est la même chose. Je dors même avec la radio. Ouais. Ça ne quitte pas et ça, c'est génétique. C'est depuis tout petit.
Et quand vous n'écoutez pas votre station, qui écoutez-vous ? Alors, je tiens à dire, en 2000, on avait fait un sondage auprès de nos animateurs et on a eu l'immense surprise d'avoir en première réponse France Inter et France Culture quand même. Hein. Pour une radio de punk à chien, c'est plutôt surprenant. Donc, je vais commencer par Pierre en tant que représentant nouvellement co-élu de la radio.
Alors moi, j'écoute très très peu la radio, autre que FMR, bien sûr, et j'écoute surtout de l'information, donc c'est plutôt France Info et France Inter, et parfois France Culture aussi.
D'accord. François-Xavier ?
Alors, ça dépend à quelle période de ma vie. Ça a été tu veux savoir quand ?
Oh, alors,
quand
actuellement.
J'étais, quand j'étais jeune ou actuellement ?
Oh, on a tous eu nos petits moments, hein. On a parlé avec avec Jean-Marc, on a parlé de Maximum, on a parlé de Skyrock avant qu'il passe côté rap et tout ça. On a tous eu nos grandes radios, mais toi actuellement, qu'est-ce que
alors,
tu écoutes ?
Alors, par goût et pas par professionnalisme pour écouter les confrères à voir ce qu'ils font, je coupe Europe 1 et France Inter aussi.
Quand et comment êtes-vous entré dans la production radio ? Donc Pierre, j'ai dit, hein, c'est Vomifroid.
Non, c'est pas Vomifroid. Hein.
Merde, il va falloir que je la refasse l'intro.
Voilà. En fait, moi, je suis rentré à FMR en 1983. Et j'étais producteur d'émissions à partir de 1984.
Mmh. Ouais. Et t'as connu le bar, le Regalty et tout ça ?
Non, j'ai pas connu le Regalty. Moi, je suis arrivé juste après, quand on était Place des Piclos, quand ils montaient le studio.
Ouais. Voilà. Sous la place. François-Xavier, quand t'es-tu lancé en fait dans la production radio ?
Écoute, je suis né dedans puisque la radio était créée par mes parents et ils m'ont un petit peu forcé à faire de l'antenne à partir de 14 ans. Voilà, donc j'ai commencé à y prendre goût.
Malgré la jurisprudence Jordi.
N'existait pas encore à l'époque. Donc voilà, j'ai commencé voilà, à 14 ans à faire des émissions et commencer à ranger des câbles et des trucs beaucoup plus tôt. Et porter des caisses, brancher des trucs. Et voilà.
Ah ouais, quand même pas mal. Si ce n'est indiscret, quelle est la taille ? Combien de salariés, combien d'intervenants en fait dans ta structure chez RTS ?
Alors aujourd'hui, on est 14 salariés et il y a à peu près 4, 5, 6 personnes qu'on fait intervenir ça dépend des moments, mais des animateurs indépendants ou des producteurs indépendants ou d'autres sociétés indépendantes qui produisent pour nous.
Parce que c'est vrai que quand j'écoute, quand même, c'est assez riche.
Chez les 14, mais j'englobe aussi la régie, les commerciaux, un peu tout. Hein, parce qu'aujourd'hui, la radio, c'est pas simplement des animateurs et des journalistes.
Hein. Oui, loin de là. Pierre, toi, de notre côté, je veux dire, combien on a actuellement d'animateurs à FMR qui sont des bénévoles ?
Alors, il y a un salarié, il faut pas l'oublier, aussi, qui s'occupe de la technique, qui fait les programmations, tout ça. Et ensuite, au niveau des animateurs, on est à peu près 150, 160 animateurs sur l'antenne de FMR.
Voilà.
C'est pas la même proportion.
J'ai oublié de faire mon chèque de cotise.
non, mais pour me l'envoyer aujourd'hui.
C'est marrant parce que ça me rappelle vraiment les débuts aussi d'RTS qui a commencé en radio associative et il y avait énormément d'animateurs et de gens qui voulaient faire de la radio en 82. Alors c'est mes parents qui m'ont raconté ça, mais quand ils ont lancé la radio, les gens venaient taper pour dire ah moi je veux faire la radio, j'aime le rock, j'aime ça, j'aime ci, ouais, vas-y viens, fais ton émission. Et c'était tout le monde pouvait faire de la radio facilement et tout le monde avait envie de faire de la radio. On retrouve un peu moins ça aujourd'hui, je crois.
Elle est différente, on la retrouve dans les podcasts, on les retrouve dans les YouTube, ouais, sur Twitch. Je vais dire ils changent de médias, ce qui est tout à fait normal.
C'est vrai.
Quand est-ce que RTS s'est passé d'une radio associative basée à 7 un format commercial à vocation régionale?
Alors, on était déjà un peu... c'était une associative, mais une associative commerciale. Ça a toujours été une catégorie B. On a changé de forme juridique à la mort de notre père. C'était aux alentours de 2006, quand ma sœur nous a rejoint dans l'aventure RTS. Donc, moi, j'avais déjà un pied bien avancé dedans. Et quand elle a terminé ses études, voilà, on a créé la SRL et on a basculé on a redemandé les fréquences. Hein, parce qu'il faut d'abord rendre les fréquences et après les redemander. Donc 2006.
Et quel est le format de RTS?
C'est un format haute rythmique. On joue beaucoup de hits, mais à tendance rythmique. Ça peut être de la dance, du funk, du R&B. Il faut que ça danse, il faut que ça bouge. Voilà, c'était une proportion de nouveautés 60% et 30% de gold et de récurrent. Donc ça va de... Tu vas jouer du De Barge à du soprano.
Alors, je suis assez surpris parce que, en fait, moi, j'ai écouté ce matin, du coup, vos matinales. Ouais. Au moment de l'enregistrement, on est le lendemain du lancement du DAB+ sur Toulouse. Mais je l'ai écouté, en fait, sur votre site web, rtsfm.com. J'ai été vraiment agréablement surpris sur la présentation des infos avec un bed derrière, beaucoup d'infos locales avec du reportage malgré les conditions sanitaires actuelles. Il y a aussi pas mal d'infos autoroutières. Donc c'est pas qu'une musicale en fait comme format.
Alors il y a des créneaux, les créneaux drive sont un peu plus informatifs, donc c'est pas que musical. On apporte un petit peu de contenu, un soupçon de contenu de proximité, mais sur ces créneaux là qui sont écoutés le matin pour ça, parce qu'aujourd'hui t'as besoin d'un, y a pas besoin que de la musique, hein, les gens attendent aussi un contact, de parler et un petit peu d'information. Les centres d'intérêt pour les musicales, c'est la musique en premier. Après, t'as l'info, la météo. Voilà, c'est les centres d'intérêt et ce que cherchent les auditeurs aujourd'hui. Et de la bonne humeur. Et ça on essaye tous les jours d'être positif et d'apporter quelque chose de feel good.
Et maintenant, alors j'essaie de ne pas rigoler. Pierre, quel est le format de radio éphémère? Et t'essaies de placer les mots drive morning, after, call-in, et bien évidemment, rotation lourde.
Alors, je vais être simple, il n'y en a pas. Voilà. En gros, alors nous, c'est vrai qu'on aimerait aussi avoir un peu ce format, c'est-à-dire des émissions d'information le matin, des émissions plus culturelles le soir, sur les concerts, les nouveautés, les trucs comme ça. On n'y arrive pas. Il faut être clair, on n'y arrive pas.
On n'a pas suffisamment de salariés aussi pour le faire.
Voilà, si on pouvait avoir 10 salariés, c'est sûr qu'on en mettrait 3 le matin, qui nous assurent le 7-9, par exemple, qui est un créneau très très important pour toutes les radios, qui est un petit peu moins pour éphémère, par manque de moyens. Voilà.
Il faut le reconnaître, on n'est pas exactement sur le même niveau de budget.
Pierre, quand tu parles de 150 animateurs, ils passent quand, là, alors? Ils peuvent pas travailler le matin?
En fait, si tu veux, c'est la grille, elle est faite sur du 24-24, du lundi au dimanche au soir. Et on a des émissions qui sont hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles. Donc, le volume global représente 150 animateurs.
Il n'y a personne qui veut se lever, c'est ça?
Je l'ai fait le morning pour FMR. C'est se lever à 4h du matin et lire 3 journaux pour faire 2 heures d'antenne.
L'année dernière, on a eu quelques animateurs qui étaient motivés, qui se levaient à 7h du matin, qui venaient faire 7-8, 7-9, ça tournait, ils invitaient des mecs, alors déjà ils passaient dans la rue, ils s'arrêtaient, ils venaient boire le café, c'était très sympa comme idée, et je pense que ça, il va falloir qu'on essaie de le recréer, parce que c'est quand même très intéressant pour nous, quoi. Après, musicalement, nous, on n'a pas non plus un schéma très rigide, On va écouter, alors c'est vrai que la base d'Éphémère au départ c'était du punk rock, ça s'est largement inspiré de l'électro par la suite, et actuellement on va avoir aussi bien des émissions de jazz, de métal, de musique classique, que de, enfin, la majorité c'est quand même du rock et de l'électro.
Est-ce que la FM était à bout de souffle et qu'il fallait lancer le DAB+ ?
Non, pour moi non. Enfin, à bout de souffle, d'une certaine façon, oui, parce qu'en fait, on était bloqué par le nombre de fréquences. On était limité par le nombre de radios disponibles, puisqu'il faut laisser 400 kHz entre chaque radio. Donc, entre 88 et 108, en gros, on a un nombre limité de radios.
Il faut savoir qu'à Toulouse, en plus, on est la ville où il y a le plus de fréquences, plus d'émetteurs, donc le plus de programmes qui sont disponibles.
Ça ne m'étonne pas, quoi. Et c'est vrai que le numérique, puisqu'on va parler du numérique par la suite, ça va nous permettre d'augmenter cette plage et de fournir d'autres fréquences à d'autres radios.
Et en plus, pour FMR, on passe en fréquence pleine, puisque c'est vrai qu'on partage notre fréquence FM avec une autre radio qui s'appelle Booster. Et ça veut, François-Xavier, quel est ton point de vue finalement ? La FM était à bout de souffle ?
À bout de fréquence, oui. On commençait à tourner en rond et les derniers appels du CSA, tu as bien vu, il y avait beaucoup de réorganisation de fréquences, de plans de fréquences. Donc, ça a récuré un petit peu partout. Après, à bout de souffle, si on parle sur la qualité, sur le besoin, sur l'envie des gens d'écouter la radio, non. La FM est encore très 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 moderne. Nos radios sont très très sont très très modernes. On a su s'adapter au contexte actuel et aux envies des gens. Donc la FM ou le DAB+, c'est juste une technologie. C'est juste une technologie pour capter. Donc le DAB+ va nous apporter la possibilité d'avoir un peu plus de radio, un peu plus de gens qui de bonne volonté qui ont envie de se lancer en A, en B, en C, en E, en radio. Et ça c'est l'important. Mais pour moi, non. À part le côté technique, il n'y a plus de fréquence. La radio et la FM n'est pas à bout de souffle.
Est-ce que d'après vous, le DAB+ n'arrive pas un peu tard, puisque c'est la deuxième génération en fait de radio numérique. Avant, il y a eu le DAB qui a été lancé en 97 au Portugal, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie non, mais en Suisse oui. Est-ce que donc finalement ce qui a bloqué tout le monde, c'est ça, je suis retombé dans mes archives, sur le format franco-français TDMB, qui a retardé inutilement l'usage d'un standard international. J'étais pour Radio Éphémère à une présentation professionnelle en 2007. Et on peut parler à l'époque d'un four total devant les professionnels. Personne n'avait envie d'y aller. Et d'ailleurs, rien que pour rire, est-ce que vous savez combien de radios étaient prévues sur ce format ?
Pas du tout.
Deux bouquets de 10 radios.
C'était le format était très moderne par rapport au DAB à l'époque, parce qu'après t'as le DAB+ qui est arrivé, qui a permis de mettre un peu plus de radio, mais le TDMB permettait déjà les données associées et
tu l'avais aussi dans le DAB, hein. Dès les premières démos en 97, oui. TDF avait fait une démonstration avec une voiture sur Toulouse où tu avais les infos où tu avais Sud Radio et tu avais les infos trafic, tu avais les pochettes d'albums et tout, hein.
Ah oui.
Ouais. Et c'était du HTML d'ailleurs.
Je n'irai pas vérifier dans tes archives. Je te fais confiance là-dessus. C'était quoi la question ?
Excuse-moi, je la reprends. Pour moi, en tout cas, ça arrive bien trop tard le DAB+. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle de cette technologie. Le problème pour moi, si tu veux, c'est que les constructeurs, les fabricants de matériel, ils n'ont pas anticipé ce changement. Pour moi, l'exemple, j'ai acheté un Amplium Cinéma il y a 2 ans. Il n'est pas compatible DAB+. Il y a quand même une question aussi à se poser, c'est qu'on arrive maintenant en 2020, ça fait 10-12 ans qu'on parle du DAB+, et on se retrouve maintenant en 2020 avec les fréquences ouvertes, le système donc numérique qui fonctionne, et on n'a pas de récepteur. Moi, il y a un truc qui me gêne aussi à ce niveau-là, quoi.
Puis juste une chose d'ailleurs, c'est dès que la couverture de la France, de la moitié de la population française reçoit le DAB+, les magasins ont obligation de présenter la moitié des appareils radio qui soient compatibles avec ce standard. Les autoradios vendus doivent avoir ce standard maintenant, désormais. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tout ce matériel était disponible depuis 2005 en Angleterre, en Allemagne, en Suisse. Donc, en fait, c'est plus un problème de distributeur que de fabricant. Toujours d'après vous, est-ce que la diffusion FM est destinée à s'éteindre, comme en Norvège ou en Suisse, ou au contraire, le DAB+ pourrait s'éteindre, comme au Portugal et en Norvège.
Moi, je crois que c'est le temps qui va nous donner la réponse. J'espère, en tout cas, que le RDN ne va pas s'arrêter, parce que même si nous, on a une couverture qui est assez faible, on a une vingtaine de kilomètres à peu près de couverture avec le RDN, ça permet quand même de... Enfin, nous, ça nous a permis de fidéliser une certaine partie du public. Et le fait de dire, eh bien, on arrête l'analogique pour passer qu'au numérique, je pense que ça va laisser des gens sur le bord de la route. Tout le monde ne pourra pas se remplacer son matériel. Donc, je pense que c'est important que les deux fonctionnent en parallèle, que ça nous laisse aussi le temps de juger de la qualité, disponibilité, tout ça. Et peut-être qu'on refera un point dans quelques années, mais en tout cas, j'espère que les deux systèmes vont cohabiter.
François-Xavier, je t'en prie, oui.
Si on compare l'arrivée de la FM par rapport aux grandes ondes, tu vois, les grandes ondes, il en existe encore, mais petit à petit, la technologie a complètement, en 40 ans, complètement remplacé. On a oublié les grandes ondes et les émetteurs commencent à s'arrêter. Si on suit cette logique, le DAB, peut-être, dans 40 ans, remplacera totalement et sera la norme par rapport à la FM, et la FM s'arrêtera naturellement. Aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent très, très bien, les deux technologies peuvent très, très bien coexister et être complémentaires justement pour couvrir certaines zones, pour pas avoir forcément de la double diffusion. C'est le choix qu'on a fait, nous, c'est-à-dire qu'on a déposé du DAB là où on n'avait pas de fréquence en FM et en évitant au maximum la double diffusion, hein, la double peine. Donc ça a du sens. Et alors, tu parlais de la Norvège, mais je crois qu'ils sont revenus en arrière, non, ou c'est la Suède?
C'est la Suède qui est en train de passer au full DAB, mais la Norvège, pour l'instant, c'est arrêté. Le Portugal, c'est en stand-by. Ils sont lancés assez tôt, en 97. Et puis, ils ont arrêté à la fin des années 2000. Tout simplement parce que les groupes privés en sont sortis. Et la RTP n'a pas beaucoup de moyens pour diffuser dessus.
Et dans tous les cas, Pierre disait que ça arrive trop tard. Si on reprend l'exemple du Royaume-Uni qui était largement en avance, qui ne couvre aujourd'hui que je crois que c'est 70%, 70-75% de la population, il y a encore la FM qui existe et ça continue à se développer en parallèle. Donc voilà, je pense pas que ça soit trop tôt ou trop tard. Il va falloir du temps dans tous les cas pour que la technologie arrive dans les foyers, dans les autoradios et que petit à petit ça prenne sa place.
Pierre, François, Xavier, vous ne bougez pas, nous revenons après ce message d'intérêt général et surtout régional. Vous êtes sur Radio FMR, vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Pierre Rogal, vice-président de Radio FMR, et François Xavier Delacou, co-gérant de RTS, pour parler de l'avenir des radios FM locales. Donc, comme je l'ai dit dans cette émission, la radio est accessible pour tous à un prix modique. Et à mon sens, c'est d'ailleurs le média qui permet de desservir pour le moins cher possible, finalement, tout un public sur une zone régionale. Les prix du bas de gamme pour les récepteurs DAB+ se sont effondrés. Ils ont pris moins 50% en un an entre l'appel d'offres en 2019 pour le bouquet local et son lancement effectif donc en novembre 2020. J'ai ici un récepteur d'ailleurs ultra basique FM et DAB+ qui est vendu environ 40 €. Est-ce que c'est encore trop cher?
Oui, moi je trouve que c'est encore cher. Alors, parce que là tu parles du bas de gamme à 40 €, et c'est vraiment du très bas de gamme à 40 € en termes de qualité de son. C'est pas glamour, ça donne pas envie, tu vois, d'investir de l'argent pour le DAB+ alors qu'on te vante la qualité du son. Et dès que tu vas aller dans le middle de gamme et le haut de gamme, ben là aussi encore c'est un peu cher. Je pense que les constructeurs doivent faire un petit peu un effort. Quand aujourd'hui tu peux t'acheter des enceintes connectées, sans citer les grandes marques, pour le même prix, et voire beaucoup moins cher chez certains constructeurs américains, avec une qualité de son de ouf, et des possibilités de service totalement exponentielles. Je trouve que c'est un peu cher pour donner envie aux consommateurs de s'acheter et d'investir dans un poste DAB. Donc le DAB, à mon avis, ça va démarrer par la voiture. Hein, c'est tu auras la qualité de des équipements de la voiture qui est de base.
Donc Pierre, d'après toi,
moi je considère qu'à moins de 50 euros c'est jouable. Voilà. Mmh. C'est sûr que s'il y a des récepteurs à 20-30 euros c'est mieux, mais 40 euros je pense que ça reste acceptable pour un récepteur que tu peux balader après chez toi. Ça me choque pas trop.
Plus de radio, plus d'offres, ça n'amène pas forcément plus d'auditeurs, donc les parts d'audience par radio vont s'effondrer. Nous, à FMR, on s'en fiche car on ne passe pas de pub, on n'a pas d'impératif d'audience. Mais par exemple, François-Xavier, toi, chez vous, à RTS, où vous vivez exclusivement de la publicité, est-ce que cela vous impacte ?
Alors, pas encore, mais ça va nous impacter. C'est un petit peu le jeu quand, dans tous les cas, que ce soit en FM ou en DAB, DAB+, quand une nouvelle radio arrive sur une zone, qui a une radio commerciale qui doit vendre de la pub, etc., etc. Forcément, ça a un impact sur ton chiffre et sur l'audience. Là, il y a beaucoup de radios qui vont arriver d'un coup. Avec le DAB+, et qui ont le pour même modèle économique la publicité. Je pense que c'est le modèle économique là qui est dépassé. On essaie de se réinventer. Beaucoup de radios essaient de se réinventer, de changer de modèle économique. C'est pas simple. C'est pas simple et ça va pas se faire tout de suite. Mais ça va être une obligation. Ceux qui ne le feront pas ne pourront pas durer dans le temps. Et la course à l'audience, je ne sais pas s'il faut rentrer dans le débat parce que ça va être très 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 long. pour les auditeurs, donc il y a un institut qui s'appelle Médiamétrie qui fait des appels téléphoniques de 40 minutes pour savoir comment oui. sont écoutées les radios.
Vous faites pas avoir quand ils disent c'est 5 minutes, c'est faux.
Et si justement faites-vous avoir, dites que vous écoutez FMR et
RTS entre 7h et 9h.
Ayez le courage de tenir 40 minutes pour soutenir votre radio locale. Non, c'est très 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 compliqué aujourd'hui, on le sait, pour Médiamétrie, ne serait-ce d'avoir de compléter leur échantillon et l'audience a tendance à baisser, mais elle se reporte sur d'autres endroits. Voilà, tu parlais tout à l'heure de podcast, de replay. On consomme différemment aujourd'hui nos médias. Et nos médias deviennent des médias et pas simplement de la radio, des médias au sens large, avec du podcast, des chaînes YouTube, du Twitch, enfin plein de choses. On va vers là.
Ouais, je trouve qu'il y a presque trop d'offres actuellement. On a trop de choix, quoi.
Mais tu as raison dans un sens, c'est un peu le choix du CSA et c'était le choix, souvenez-vous la TNT, c'était l'argument, les arguments, voilà, la TNT arrive, le DAB arrive, vous allez avoir plus de choix, voilà, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je sais pas, je pense que ça va se réguler petit à petit, donc il y a beaucoup de choix au départ et on en aura un petit peu moins dans les temps à venir.
Et parmi les nouveautés, sur Toulouse donc, qui arrive avec le DAB+, il y a une radio pour enfants, qui est un peu la renaissance de Super Loustic, Radio Pitchoun. Donc c'est quand même une audience qui n'était pas vraiment travaillée justement de ce côté-là en radio. Il y a France Maghreb 2, il y a pas mal de nouvelles radios qui arrivent, qui...
Thématiques et communautaires, oui, bien sûr.
Les communautaires ne sont pas inintéressantes.
Il y a Tropic FM, il va y en avoir pour tout le monde, donc c'est plutôt une bonne chose. Et je pense que il y a une audience pour tous, parce que c'est comme tu le dis, c'est thématique ou c'est communautaire ou c'est des choses qui n'existaient pas.
Et vous-même à RTS, vous émettiez jusque-là entre Avignon et Perpignan. Alors pourquoi venir à Toulouse ? On manque cruellement quand même de poissonnerie en ville et on mange du cassoulet. Par contre, on a des radars routiers.
C'est vrai, vous en avez un paquet. c'est pas la première fois, mais mes parents déjà avaient candidaté. Ça va faire à peu près 20 ans qu'on candidate pour être sur Toulouse. Et au départ, on avait des ambitions de développement plutôt sur le côté sud-ouest plutôt que le côté méditerranéen. Méditerranéen, ça a changé avec les années. Toulouse est plus devenue une priorité, mais il y a eu la fusion des régions. Et pour une radio comme nous qui voulait se revendiquer radio régionale, donc là la nouvelle région c'est l'Occitanie, il fallait qu'on soit sur Toulouse. Mais je rassure personne, mais on n'ira pas plus haut que Toulouse et on va pas se développer plus en Midi-Pyrénées parce que voilà l'orientation d'RTS c'est la mer. Mais il y a une logique quand même parce que
Cosa d'FM est sauvé.
Toulouse FM, 100%, ne faites pas tout de suite vos valises. Pierre.
Oui. Non, je trouve que c'est très intéressant pour vous de pouvoir vous développer comme ça sur Toulouse, qui n'est pas le cœur de, le centre physique de votre radio, si elle est à 7. C'est quand même un gros plus, tu vois, de pouvoir changer comme ça de, bon, pas de région, puisque maintenant on fait partie de la même région, mais ça vous permet d'avoir une audience, c'est quand même beaucoup plus large, quoi.
Bien sûr, c'est une énorme agglomération, mais les tempéraments, tu vois, déjà, la façon de vivre n'est pas la même que à Sète, à Montpellier, à Nîmes.
Mais
on a, il y a pas la mer, mais par contre les Toulousains descendent, du côté de l'Aude, du côté de Gruissant, etc. Et il y a une logique dans tout ça parce qu'on couvre toutes les autoroutes et les Toulousains qui descendent à la mer vont forcément écouter ou pourront continuer à écouter RTS. Et je rappelle également, et ça c'est historique, c'est le canal du Midi rejoint Sète à Toulouse depuis sa construction. Donc il y avait déjà
et puis peut-être que ça va développer justement le tourisme pour aller voir les campagnes publicitaires municipales de Robert Ménard. Bizarrement, on n'a que 7 radios associatives de Toulouse et Muret qui sont montées en DAB+, pour donc les 3 multiplex qui ont été lancés à Toulouse, multiplex locaux je veux dire. On a moins de radios communautaires en proportion, moins de radios consacrées aux langues régionales, mais on a de nouvelles radios religieuses. Alors finalement, qui Gardarem Lou Languedoc? J'aurais aimé poser cette question à nos amis de Radio Occitanie.
C'est vrai que l'arrivée du DAB+, comme on le voit, ça permet d'ouvrir des nouveaux canaux de communication, alors que ça peut être communautaire, ça peut être... ça, c'est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai pas d'avis spécifique sur la question.
Comme je te disais tout à l'heure, je pense que la bande FM est loin d'être arrêtée. Le DAB+, voilà, ça arrive, c'est complémentaire et c'est important pour des radios comme nous, ou d'autres qui veulent se développer ou développer d'autres programmes. Il y a beaucoup sur l'Occitanie et sur Toulouse de radios associatives. On en a beaucoup aussi à Montpellier. C'est une région où il y a beaucoup de diversité par rapport à ça et c'est très bien. Si toutes les radios associatives qui sont en FM ne sont pas dupliquées sur le DAB, je pense que c'est pas hyper important puisqu'on peut les capter en FM. Donc elles existent et ça les met peut-être un peu moins aussi en danger parce qu'il faut le dire aujourd'hui le DAB quand même c'est un coût supplémentaire pour tout le monde en termes de diffusion. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire pour vous pour les radios associatives sur des zones où vous existez déjà? Je suis pas convaincu.
On a loupé le fait de mettre une porteuse RDS dans une époque et on était complètement absent de toutes les autoradios. Europe 1 a fait la même chose quand ils ont supprimé la stéréo dans les années 90. Ils l'ont très vite remise. Oui, Pierre, pardon.
Ce qui est un petit peu gênant avec le DAB+, quand même, c'est qu'au niveau couverture d'émissions, on ne gagne rien, quoi. Ça, c'est un peu dommageable, moi, je trouve. Parce qu'en fait, nous, on a l'émetteur RDS, on a l'émetteur numérique juste à côté qui couvre la même distance. Donc, c'est vrai que ça fait un peu redondance, quoi.
Après, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est les radios associatives qui doivent faire ce choix, c'est d'émettre qu'en DAB et plus en FM, parce que le coût du DAB par rapport à un émetteur FM est quand même plus réduit, et donc ça pourrait, dans ce sens-là, faire des économies aux radios associatives.
Est-ce que vous comptez utiliser les nouveaux services offerts par le DAB+, notamment la data? Pierre?
Non. En fait, si tu veux, nous, ça va être juste le logo de la radio et le nom de la radio. Voilà, les data, nous, ça va se limiter à ça, quoi.
Oui, j'avance sur mon code en Python, hein, je te rassure.
Voilà. Non, après, c'est sûr, on pourrait... On préfère, quand on passe de la musique, mettre le nom de, du morceau, des trucs comme ça. Quand on fait les émissions en direct, mettre les liens aussi. Mais bon, c'est quand même très compliqué, quoi. Nous, on va pas le gérer. Pour l'instant, en tout cas, on va pas le gérer.
François-Xavier?
Alors, je vais te faire une réponse mitigée. J'étais très enjoué hier en venant à Toulouse parce qu'on a travaillé en amont pour pouvoir envoyer synchroniser les pochettes, les titres et commencer à voir comment ça s'affiche et comment ça fonctionne. Et en arrivant, je me suis aperçu que mon autoradio de mon Toyota n'avait pas anticipé que les radios DAB puissent envoyer de l'image. Voilà, donc ils n'ont pas prévu l'affichage sur mon autoradio. Donc j'étais très très déçu.
Pas si fantastique que ça, la Toyota.
Non. Et je pense que encore une fois, la donnée associée là-dessus va être très très limitée. Donc je l'ai fait pour tester. Alors j'ai pu le voir sur un tout petit poste qu'avait comme équipe, qui est notre diffuseur, un petit poste pur. Mais afficher une pochette, afficher même du texte, il y a la latence, c'est pas génial. Hein. Il faut pas se mentir là-dessus. Ça aura un sens, mais je sais pas dans combien d'années quand on pourra synchroniser le DAB+ avec des données associées IP qui arriveront par la 5G ou par un autre moyen et qui pourront nous donner plus de possibilités. Donc je vais m'empresser d'enlever mes données associées pour récupérer les 4 kilobits que je vais remettre pour la qualité du son.
Voilà. Oui, parce que c'est un débit de 8 kilobits max pour la donnée associée. ça fait à peu près, pour donner un ordre d'image pour nos amis auditeurs, ça fait 6 Minitel en parallèle, voilà. Oui, il faut donner des images hein, pour expliquer.
Oui, mais oui.
Alors donc, on arrive avec le DAB+, depuis hier, au moment où on enregistre, 39 radios captables pour les locales, 24 nationales vont arriver normalement d'ici l'été prochain, s'il y a un été, et encore on se pose des questions. Dans les années 80, étaient arrivées les banques de programmes comme AFP Audio, qui est devenu A2PRL, du même groupe que Toulouse FM, la banque musicale RFI Musique, ou encore les programmes syndiqués comme Arte Radio ou ceux de la Ferrarock. Est-ce une professionnalisation ou une perte d'identité, finalement? Et qu'est-ce qui risque d'arriver encore pour nos radios?
Je sais pas, moi. Enfin, là, j'ai...
Pierre, qu'est-ce qu'on a sur FMR, en fait, comme émission qui viennent de sources extérieures? Il y a les Ferrarock, il y a Mix et Remix.
Oui, puis il y a des producteurs d'émissions qui nous envoient leurs émissions, nous disant, ben voilà, moi je fais ça, est-ce que ça vous intéresse à diffuser? Donc on en a quand même presque une dizaine par semaine d'émissions comme ça qu'on diffuse. Et on n'est absolument pas maître, si tu veux, du contenu, quoi. C'est déjà mis en boîte à l'avance.
Voilà. Le CSA écoute. François Xavier.
Non, mais je trouve que c'est très bien d'ailleurs de pouvoir diffuser des programmes parce que il y a des mecs alors qui vont faire soit ça va être du mix, soit ça va être des reportages, des émissions un petit peu, on va dire, complexes où tu as le temps vraiment de prendre la parole, d'étudier les situations, faire des interviews. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que ça sort un petit peu du contexte de la radio, ça sort du cadre habituel de nos animateurs et ça apporte un petit peu plus à la radio. Voilà.
François Xavier?
Je pense que ça a pas trop d'avenir pour les radios. C'est-à-dire, la Ferrarock, cité A2PRL. Si tu regardes, il n'y a pas beaucoup d'autres agences ou d'autres sociétés dans ce genre qui sont vraiment développées depuis la FM. Ça va rester contraint, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, la bataille, elle est sur le contenu, sur ce que tu vas proposer à tes auditeurs. Les zones de diffusion, elles s'élargissent. Il y a Internet aussi, maintenant, on peut te capter partout. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, bon, on a un développement régional avec le DAB+, mais bon, tu peux écouter RTS situé, ou FMR situé, tu disais tout à l'heure, aux États-Unis, à l'autre bout du monde. Donc, si tu écoutes, imagine ta FMR à Lille et qu'on entend ton émission sur une radio, une autre radio locale, quel va être l'intérêt d'écouter FMR? Donc La bataille maintenant, elle va être à la fois sur le développement de la marque et sur les contenus originaux, ce qui se passe sur les chaînes de télé aujourd'hui, sur les players, sur les Netflix, sur les plateformes. Tu vois qu'ils se lancent, ils se battent tous maintenant à produire leurs propres séries, leurs propres films, leurs propres trucs et acheter un peu moins de contenu extérieur. Voilà.
Ben nous, c'est pas des contenus qu'on achète puisque ça nous est proposé.
Oui, bien sûr. Mais voilà, ça fait
après, par contre, alors si tu veux, nous on peut accepter ou refuser, c'est de notre libre arbitre. Par contre, effectivement, on fait partie de l'affaire Arrock, donc là on a une espèce de contrat moral avec l'affaire Arrock où on va échanger des programmes qui viennent des différentes radios.
Et c'est très bien, ça a du sens et ça avait du sens à l'époque. Maintenant, je pense que de plus en plus, à l'ère de la mondialisation, ça commence à être un peu plus compliqué. Pareil pour nous, on a fait appel à certaines époques à des animateurs qui travaillaient sur d'autres radios. Sauf qu'il se trouve que maintenant, si tu écoutes, en parallèle ou si tu zappes sur des radios, tu vas te retrouver avec des animateurs indépendants qui travaillent à la fois pour toi et pour ton concurrent, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans. Maintenant, elle commence à devenir un problème.
Pierre et François-Xavier, vous ne bougez pas, on revient après cet extrait de cette magnifique compilation des meilleurs hits de Radio FMR actuellement en vente. Non, on n'a pas de magasin de souvenirs. Vous êtes sur FMR ? Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Pierre Rogal de Radio FMR et François-Xavier Delacoux de RTS, radio nouvelle venue sur Toulouse via le DAB+, pour parler de l'avenir des radios FM locales. Depuis 20 ans existe, entre autres aux États-Unis, la radio par satellite, notamment le bouquet Sirius XM. Une idée pourquoi une telle offre n'a pas décollé en France ?
Alors, pour avoir essayé la radio par satellite, c'était très bluffant d'ailleurs en voiture aux États-Unis, ça marche très très bien. D'une part, je pense que c'est payant déjà, et que les États-Unis, si tu rapportes au nombre de la population, je crois que l'audience est quand même très 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 infime. Je pense que le territoire français a beaucoup 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 de pluralité déjà en termes de radio, et une offre comme ça n'avait pas forcément de sens pour la France.
Non, il faut expliquer qu'aux États-Unis, quand même, la moitié des radios, c'est du talk en AM et souvent conservateur. Et ce qui est en FM, les trois quarts des stations aux États-Unis, c'est surtout de la country. Et d'ailleurs, c'est ce qui a motivé Apple à ne pas mettre la FM sur son iPhone. Ils n'en voient pas l'intérêt. Voilà, ils n'en voyaient pas l'intérêt par rapport à ce qu'ils écoutaient en Californie. Pierre, vas-y.
Juste pour parler là sur cette histoire de satellite, le satellite, c'est quand même la meilleure réception possible. N'importe où tu te trouves, tu es capable de capter ton signal. Ça, c'est l'intérêt. C'est que dans les zones où il n'y a pas d'émetteur ou très peu, où il y a des montagnes, des collines, des trucs comme ça, le satellite permet toujours de pouvoir capter. Le son est il est quasiment exceptionnel parce que c'est du numérique, il arrive directement du satellite, donc il est de très très bonne qualité. Le problème, comme disait François-Xavier, c'est le coût. Ça correspond à des centaines, voire des millions d'euros de location du satellite. Donc, pour des grosses radios, c'est peut-être intéressant. D'ailleurs, ça fait 10-20 ans que ça existe dans le numérique, par satellite. Mais le problème, c'est que nous, les petites radios qui ont peu de moyens, ou radios associatives, on ne peut absolument pas partir là-dessus, quoi.
Pas actuellement, en tout cas. À l'heure des applications mobiles fournies par les groupes de radio, comme Énergie, Lagardère, Radio France ou RTS, à l'heure des podcasts ou des co-diffusions sur YouTube, sur Twitch, ou même sur France 3, est-ce encore intéressant, finalement, économiquement, d'émettre en FM ? Et là, la question est surtout pour François-Xavier.
Oui, parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire, là.
Alors, pour s'être lancé sur l'aventure YouTube et pour essayer de percer là-dessus, et c'est un monde très 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 particulier à apprivoiser. Aujourd'hui, oui, ça reste très très rentable de continuer en FM. Un YouTuber aujourd'hui arrive, il faut une communauté de plusieurs millions de personnes pour aujourd'hui commencer à gagner de l'argent en étant seul, dans sa petite entreprise en tant que YouTuber ou Twitcher. je sais pas comment on dit, si on dit Twitcher ou pas. Il faut une communauté énormissime pour gagner correctement sa vie pour une personne. Aujourd'hui, une entreprise comme RTS fait vivre donc 14 collaborateurs, est rentable, et pour arriver à ce niveau de chiffre d'affaires, c'est à part être Squeezie ou d'autres d'autres stars du web, c'est quasi impossible. Mm. Et d'ailleurs, juste pour préciser, aujourd'hui, la plupart des chaînes YouTube, des radios ou des sont pas du tout rentables. C'est uniquement pour faire de l'image, mais c'est pas rentable du tout.
Les applications mobiles, j'ai très rapidement dit, mais c'est vrai qu'une bonne partie en fait, apparemment, de la construction de votre éditorial se fait aussi via votre application mobile chez RTS. Oui, parce qu'à FMR, on avait une application mobile qui avait qu'un seul bouton, c'était Play.
Ce qui est pas mal.
Quand ça marche. Mais ça, c'est la radio alternative. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Les applis mobiles, qu'avec une sélection de radios qui sont restreintes à des groupes, est-ce que ça réduit l'envie de zapping des auditeurs et donc de découvrir d'autres radios? Est-ce que finalement, c'est une manière de tenir en otage par sentimentalisme ou flemme les auditeurs?
Je pense surtout c'était l'appli. Alors nous, quand on l'a pensé, c'était pour apporter un service supplémentaire que la FM pouvait pas amener. Mmh. Sur notre appli, dès le départ, on fait de l'inforoute. Tu l'as dit au départ. On a voulu que les auditeurs puissent déclarer facilement leur inforoute. Alors soit par la voix, soit en cliquant sur un bouton. Donc on a implémenté cette fonctionnalité. Ça marchait bien au début, et après il y a Waze qui est arrivé. Et beaucoup.
Non, mais vous étiez précurseur. Ça c'est bien de le dire pour une radio quand même qui est issue d'une ville moyenne et tout ça. Waouh.
Oui, mais souvent on est souvent des précurseurs et après souvent on revient en arrière, on revient juste au bouton play parce que tu te rends compte que tu as beaucoup d'idées, tu veux amener beaucoup de services, beaucoup de choses, mais que les auditeurs ont envie d'une chose, c'est écouter ta radio, et, bah, chercher un petit peu d'infos, mais ils viennent écouter la radio essentiellement pour la radio. Donc l'appli au départ, c'était voilà, c'est un canal supplémentaire d'écoute, comme aujourd'hui le DAB+, comme un internet, comme les web radios, etc. Et c'est un moyen d'amener quelques services supplémentaires. S'il y a un service qui marche bien depuis le début qu'on a lancé, c'est la participation à nos jeux antennes. C'est-à-dire ils peuvent, les auditeurs peuvent jouer gratuitement vu qu'ils ont un décompte, ils sont renseignés automatiquement, ils ont juste appuyé sur jouer, ça renseigne automatiquement tous les champs, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. Et pour nous, ça nous permet aussi de constituer de la donnée et des choses comme ça. Mais ça c'est pas pour les retenir sur notre application, pour pas qu'ils découvrent autre chose, ça non.
Est-ce que vous sentez concurrencé par un pure player en podcast ou au contraire ça a amené une audience? Alors je tiens à dire, FMR a été la deuxième radio à simulcaster une seconde radio francophone au monde à simulcaster une émission en FM et en podcast. Le fait que ça soit moi qui l'ai produite, c'est un pur hasard. Et nous, ça nous a amené, on parlait de bande dessinée de cinéma, on a été très surpris d'avoir eu une audience qui venait d'Algérie, de Californie et de Chine. Est-ce que finalement, on y gagne ou on perd des auditeurs par ces biais-là? Pierre?
Je vais essayer de répondre à Pierre.
Pour moi, on en gagne. Parce que c'est quand même très utile de pouvoir rediffuser ses émissions ou diffuser tout simplement son émission quand on n'est pas disponible. Enfin, moi, je vois deux choses. L'intérêt, c'est de pouvoir faire ses émissions depuis chez soi. Donc, en fait, chez soi, on a son matériel, on produit son émission, on l'envoie à la radio, elle est diffusée. Ça, c'est un premier truc. Ensuite, il y a aussi les gens qui peuvent pas écouter les émissions en direct et qui aiment bien retrouver des fois les enregistrements, les podcasts comme ça disponibles. Donc, je pense que c'est très intéressant. Alors, ça sert pas tout le temps, évidemment, mais je trouve que c'est un plus non négligeable pour les radios.
François-Xavier?
Alors, sur le podcast, on n'a pas du tout été pionnier là-dessus, comme tu as pu, tu peux l'être.
Quand oui, pu mais l'être vous êtes, avec vous êtes ce qu'on appelle une émission, vous faites une, ce qu'on appelle une radio de flux, pas une radio vraiment de rendez-vous.
C'est ça, une radio de flux et les podcasts qu'on a, les premiers podcasts qu'on a commencé à faire, c'était simplement du replay des émissions existantes. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on est purement musical, le contenu que l'on crée est intégré dans le flux. Alors c'est avec il y a deux trois ans, on a commencé à s'y intéresser, à créer des formats d'émissions comme Carré VIP, qui est une interview qui fait partie du flux, mais qu'on a sorti. Donc on a créé une identité, on a créé aussi sur YouTube et en podcast. C'est pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes auditeurs, c'est pas la même audience que tu vas aller capter, que le podcast prenne de l'ampleur aujourd'hui, en tout cas dans les médias ou parce dans le quotidien des gens de plus en plus. Tant mieux parce que ça amène les gens à l'audio et à redécouvrir l'audio et ça permet aussi de le format podcast des choses complètement différentes de ce qu'on fait en radio. Alors moins chez vous, moins sur les radios associatives, parce que vous prenez plus le temps de faire des émissions de fond, des émissions où on peut discuter comme on le fait aujourd'hui. Sur nos types de radios, c'est quand même la musique avant tout, le flux et on prend plus ce temps-là et ce temps-là on le retrouve sur les podcasts. Donc on peut aller capter une autre audience qui a envie d'avoir un peu plus de fond, prendre un peu plus de temps d'écouter des sujets, de débattre. C'est complètement différent. Donc je pense pas qu'on perde de l'audience. On en gagne différemment, mais aujourd'hui on la monétise pas et ça c'est pas. On en revient toujours un petit peu à la même chose. C'est difficile aujourd'hui de vivre du podcast. On nous vante les podcasts aux États-Unis. T'as des gros podcasteurs qui gagnent très très bien leur vie. On veut nous amener à ça, mais on est très très loin de ça en France. Il y a beaucoup d'investissements autour du podcast, mais encore une fois, toutes les startups qui les Cybel, les Magellan qui se sont lancés dépensent de l'argent. Aujourd'hui, ils n'en gagnent pas.
Magellan, ils ont voulu nous faire découvrir comment on faisait du podcast. Ça fait comme si on n'y était pas depuis 15 ans. Des appareils mobiles, en fait, déjà, on a la moitié de la consultation du web actuellement qui se fait sur smartphone. Des appareils, téléphones ou smartphones qui permettent d'écouter la radio en FM, même si la fonction a été démodée car non présente sur iPhone, parce que c'est vrai que les fabricants sont taxés par les opérateurs téléphoniques aux États-Unis pour avoir l'option FM. On en a, et surtout on en a à nouveau, puisque Samsung a remis la fonction sur ses appareils haut de gamme d'une manière assez surprenante. Par contre, il n'y a eu qu'un seul modèle vendu en France qui était compatible avec le DAB+, et d'ailleurs, il est retiré du catalogue.
Super.
Ouais, super. Alors, est-ce que d'un côté, on a Radio FMR et membre du CNRA. Si je me trompe, RTS, vous faites partie du GIE Les Indépendants.
Et du CIRTI.
Du CIRTI, oui. Est-ce que vous savez si une opération de lobbying est prévue ou on se la formante dès maintenant, dès que je coupe l'enregistreur, pour qu'on pousse les fabricants à mettre du DAB+.
Non, il y a rien qui est prévu sur, en tout cas du côté du syndicat sur ces sujets-là dans les semaines, les mois à venir. Je pense pas que ça soit nécessaire de mettre du DAB+ sur un téléphone portable, parce qu'il y a déjà l'IP, ça marche plutôt bien. C'est l'usage qui fait l'utilisation. Tu parlais des podcasts tout à l'heure. Les podcasts, ils existent depuis le premier iPhone. C'était dedans. T'avais l'application et tout le monde.
L'application un podcast, ça est arrivé largement après. Hein, mais, c'était quelqu'un qui avait bricolé en 2005 un truc dans une appli, quoi.
Oui, mais t'avais le podcast, c'est la contraction d'iPod et de Cast. Donc c'était déjà réfléchi et ça existait. L'application iTunes Podcast. Bon, je sais pas si c'est le premier iPhone, mais c'est dans les tout premiers iPhone. Donc après Apple a imposé les applis et les gens, voilà, ont pris l'habitude d'utiliser des téléphones, une appli pour faire tout ce qu'il y a à faire. D'accord. Mmh. Donc, écouter la radio, c'est, bah, voilà, c'est dans sa voiture, c'est encore dans les, sur un poste radio. On va chercher par rapport à l'usage. Donc, même si on écoute en, par les applis la radio, c'est cet usage-là qui est fait. On va pas aller chercher l'appli forcément de pour écouter un FM ou un DAB+ sur le truc. J'y crois pas ça.
François-Xavier Delacoue pour RTS depuis 7. Merci beaucoup.
Mais merci Xavier de m'avoir invité, ça m'a fait très très plaisir. Et grâce à ça, j'ai découvert tes émissions et je les ai rajoutées dans mon appli podcast.
Oula. Pierre Rogal de Radio Éphémère depuis donc le local où on a enfermé Eugène Lau. Merci beaucoup.
Merci à toi, c'est toujours un plaisir.
Ouais, je ne sais pas de qui vous parlez, mais pensez à lui donner de l'eau et à manger quand même. Hein.
Oui. Oui, je vais le voir tout à l'heure.